Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Folie douce. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. En 1880, au lac Léman, en plein mois de juillet, Jérôme Audemant entre à l'hôtel du lac.
C'est spécial.
C'est spécial.
Spécial.
Comment allez-vous?
Très bien, asseyez-vous.
C'est un jeune homme de 22 ans, grand, blond, les traits du visage fins et juvéniles, légèrement bronzé et porte un costume blanc, a à la main un sac de voyage marron. Le hall de l'hôtel, très clair, a quelques clients qui vont et viennent à leur occupation. Ce sont pour la plupart des personnes âgées. Une musique douce et discrète qui provient d'un salon voisin. Deux, à leur manège, l'impression d'assister à un ballet, surtout que malgré eux, ils rythment leurs mouvements avec la musique. Jérôme demande au maître d'hôtel la chambre qu'il a retenue. Le maître d'hôtel est un vieux monsieur, petit et chauve. Après avoir gardé sur son calepin, chambre 38, troisième étage. Les bagages arriveront demain. Il signe le cahier. Le maître d'hôtel lui donne sa clé et sonne un groom. Chambre 38, dit le maître d'hôtel. Le groom prend le sac à Jérôme. Si vous voulez bien me suivre, monsieur, et le conduit à sa chambre.
S'il te plaît.
Le groom ouvre la porte. Ils sont entrés. Le groom va ouvrir les volets. C'est une vaste chambre meulée XV, un grand lit, armoire, table de nuit, un coin salon et une salle de bain contiguë. Jérôme va ouvrir la porte-fenêtre pour aller au balcon. Vois que la vue donne sur le lac. Le groom a posé à terre le sac. Monsieur désire-t-il quelque chose ? Que la femme de chambre l'aide à ranger ses affaires ? Non, merci. Le groom se penche. Jérôme sort de sa poche une pièce et le groom sort de la pièce. Jérôme sort du balcon et ferme la porte-fenêtre. C'est la première fois qu'il prend ses vacances seul. En fait, il devait partir avec un ami, mais cet ami est tombé malade. Jérôme vient de faire ses études et avant d'entrer dans la banque de son père, ses parents lui ont payé un petit voyage, Grèce, Italie, Suisse. Il ouvre son sac et déballe ses affaires. À 13h, il est descendu pour le déjeuner. Le maître d'hôtel lui a montré sa table. Une table dans un angle, près d'une fenêtre. Une table à un couvert. Il regarde autour de lui. À part une vieille femme, il est le seul à déjeuner seul. Aux autres tables, des gens de tout âge, bien habillés, soignés. On parle à voix basse et les rires sont retenus. Il y a très peu de jeunes personnes. Le repas se passe dans la monotonie. Après le repas, Jérôme décide d'aller lire au salon. Il fait trop chaud pour sortir. Il va s'asseoir dans un fauteuil.
Spécial.
Comment allez-vous ?
Il faut que je vous dise de mon fils qui fait quelques bien de 5 ans, comme Mozart. C'est pas parce que je suis son père, mais tout
le monde. C'est assis un peu à l'écart des autres et prend un journal qui traîne sur une table. Il le lit. Pardonnez-moi, monsieur. Jérôme lève la tête pour savoir qui lui parle. C'est une jeune fille, grande, mince, blonde, le visage rieur, habillée d'une robe blanche. Oui, mademoiselle, vous avez pris le journal de mon grand-père. Je suis confus, je croyais qu'il était à l'hôtel. Mais il l'est, c'est-à-dire que mon grand-père le lit à cette heure-ci et que les gens de l'hôtel le savent et le lui laissent. Vous savez, c'est un vieux monsieur. Vous comprenez, j'espère. Oui, bien sûr. Il plie le journal et le lui tend. Elle le prend. Merci, monsieur. Elle s'élance vers un vieux monsieur tout ratatiné dans un fauteuil. Sans rien à lire, Jérôme décide de sortir pour aller se promener le long du lac.
Oui, mais souvent, femme. Pietro ! Tu vois tout ça ?
Il est sorti de l'hôtel. Le soleil et la réverbération de l'eau lui fait mal aux yeux. Dehors, peu de promeneurs et une barque ou deux sur le lac. Il traverse la route et prend le petit chemin qui longe le lac. Après 5 minutes de marche, il se trouve en dehors des habitations. Le chemin longe le lac. À gauche, de l'autre côté, il n'y a que végétation sauvage avec de grands arbres. Il y a même des saules pleureurs. Jérôme respire mieux. Il y fait plus frais. Après une heure de marche, il s'en retourne. L'hôtel est plus animé. Les gens sont sortis de leur chambre. Les gens sont sortis de leur chambre après leur sieste. Prennent le thé ou sortent. Jérôme voit la jeune fille de tout à l'heure avec un groupe de jeunes. Ils vont et viennent et sortent en courant. Jérôme va prendre son thé dans la salle à manger. Un petit orchestre joue.
Téléphoner.
Exactement.
Oh, il me mène. Pietro.
Puis, après avoir pris son thé,
tu me mènes ?
Il s'en retourne dans sa chambre.
Il en reste 5.
Il veut écrire à ses parents. Il est descendu pour le dîner. Il retrouve la même petite table. Il voit un peu plus loin la jeune fille et son grand-père. À la fin du repas, le maître d'hôtel lui dit « Monsieur, monsieur le duc et sa petite fille vous invitent à sa table pour prendre un café. » Il lui montre la table. « Bon, dit Jérôme, et il s'y dirige. » Remercie monsieur de m'inviter.
Ce n'est rien, jeune homme. Vous avez eu la gentillesse cet après-midi de vous soumettre à un caprice de vieillard.
Ce n'était rien.
Vous nommez comment ?
Jérôme Audermont.
Asseyez-vous.
Il s'assoit. On lui sert un café.
Vous êtes en vacances ?
Oui, monsieur. J'ai fini mes études et avant de travailler, ma famille me paye un petit voyage.
Seul ?
Oui, hélas, celui qui devait m'accompagner est tombé malade. La jeune fille lui dit, « Cela vous plairait de faire un tour en barque avec moi et un de mes cousins ?»« Oui, bien sûr, mademoiselle. Alors demain, 10h, devant l'hôtel. » Jérôme est heureux. Enfin, il a fait une connaissance. Après avoir bu son café, il se retire. Enfin, il la voit, est accompagnée d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand, mince, les cheveux châtains, les yeux bleus, une grande douceur, les lèvres boudeuses. Il est habillé d'un costume blanc, comme Jérôme. Il s'approche de Jérôme. Jérôme dit « Bonjour mademoiselle, non, appelez-moi Élise, et mon cousin c'est Philippe. » Ils se tendent la main. Ils vont louer une barque et entrent dedans. Ils s'assoient confortablement au fond et Jérôme et Philippe prennent la rame. Philippe est derrière Jérôme. Jérôme voit Élise. Son visage change suivant la lumière qu'il reçoit entre les feuillages. Il la trouve très belle. Elle lui sourit et lui dit « Que l'on est bien ici. J'aimerais toujours être sur l'eau. » Philippe demande « Que pensez-vous de la Martine ?» Jérôme dit « Je trouve un peu vieillot ses poèmes. Ma cousine l'adore. Elle dit que c'est l'homme le plus sublime que soit. » Elle est aux épaules. Il ne connaissait rien. Lui au moins sait parler aux femmes. C'est pas comme ses poèmes modernes. Oh, un nénuphar. Vous pouvez me le prendre ? Jérôme se penche un peu et fait chavirer la barque. Ils se retrouvent tous à l'eau. Mais c'est pas grave car ils savent. C'est pas grave car ils savent nager. Ils remontent sur la barque et décident d'aller se sécher sur la berge. Le soleil est si chaud qu'ils sèchent vite. Après l'effet de surprise, cet incident les fait rire et décident de se baigner. Lorsqu'ils reviennent à l'hôtel, les vêtements ont séché et ils restent de bonne humeur. Pour le déjeuner, ils décident d'être ensemble et faire venir le grand-père à leur table. Le repas se passe joyeusement. Désormais, ils se voient tous les jours et font des sorties, jouent au tennis ou aux dames. Jérôme trouve la fille très belle. Elle est très ravissante et son cousin charmant. Un après-midi, qu'Élise et son cousin sont allés accompagner le grand-père chez le médecin, Jérôme est dans le hall d'entrée et rêvasse. Tout à coup, voir arriver une femme grande, mince, les cheveux en chignon. Elle porte une robe jaune et un chapeau de même couleur avec une voilette. Mais cette voilette ne cache pas son visage. De grands yeux bleus, des lèvres bien faites, humides, légèrement entr'ouvertes qui montrent des dents d'une blancheur parfaite. Elle a dans son maintien quelque chose d'irréel. Elle s'avance vers le maître d'hôtel et dit à voix basse son nom. Le maître d'hôtel lui fait signer le livre et lui donne une clé, puis fait signe à un groom. Jérôme la voit s'éloigner. Il est envoûté par cette apparition. On dirait un ange descendu du ciel. Lorsqu'il descend pour le dîner, il n'a qu'une pensée, la revoir. Il retourne à sa table puisque ses nouveaux amis ne sont pas là. Il regarde autour de lui, il ne la voit pas. Il commence à manger. Enfin, elle apparaît. Elle porte une robe rose, toujours la même. Des marches. Elle suit le maître d'hôtel. Tous les regards se portent sur elle. On l'amène, elle aussi, à une table, à un couvert. Son maintien et son visage sont d'une très grande douceur, mais inspirent respect. Jérôme ne peut s'empêcher de la regarder. Elle ne semble ne voir rien voir. Malgré son côté juvénile, l'on sent à son maintien qu'elle est plus âgée qu'on ne le croit. Jérôme se demande qui peut bien être cette personne. Elle quitte la salle à manger avant tout le monde. Demain, il retrouve Élise et son cousin sur la terrasse de l'hôtel. Jérôme s'avance vers eux. Élise lui dit « Les vacances sont finies pour nous. Nous allons être obligés de rentrer. Grand-père n'est pas bien. Nous partons cet après-midi. » Jérôme leur dit « Je suis navré pour vous. » Ils ont fait une dernière promenade ensemble, déjeuné à la même table. Jérôme n'a pas osé regarder si la jeune femme était à la salle à manger. Et il leur a dit au revoir. Après leur départ, Jérôme se sentit un peu triste et se demande si lui aussi ne veut pas rentrer et terminer ses vacances en Dordogne chez ses parents. Demain, je préviens l'hôtel que je pars. Mais, au dîner, il revoit l'inconnu en robe blanche, encore plus douce et élégante. Il décide de rester. Le lendemain matin, il se met devant le hall d'entrée pour la voir passer. Après une heure assis dans un fauteuil, il la voit passer. Elle est là, aérienne, semble ne rien voir. Elle passe devant lui. Et sans son parfum, il se dit « Comment être vu par une étoile filante ?» Les jours passent et il ne fait que l'entrevoir. Il voit qu'elle ne parle à personne, reste toujours à l'écart. Peut-être est-ce la fille d'un haut personnage qui veut rester incognito. Lui aussi reste seul et ne parle à personne. Un jour, assis sur la terrasse de l'hôtel, il la voit avec une ombrelle à la main. Elle lit une lettre. Tout à coup, un manque d'attention lui fait lâcher l'ombrelle. Un vent la fait rouler un peu plus loin. Jérôme l'a vue et court la lui ramasser. Il la lui donne. Merci, monsieur. Jérôme, au demeure. Elle lui sourit. Vous êtes ici en vacances? Oui, pour quelques jours. Elle lui dit, l'endroit est charmant, il est calme, reposant. On doit pouvoir faire de belles promenades. Oui, si vous permettez, je pourrais vous guider à quelques promenades. Je vous remercie, messieurs, nous verrons. Elle s'éloigne. Dans l'après-midi, il est sur la terrasse. Elle vient vers lui et lui dit « J'accepte vos propositions. Ce matin, le temps est si joli que j'ai envie de promener. Je suis à votre service, madame. » Elle lui dit « Suivons le lac par le petit chemin. Mais par convenance, partons chacun de notre côté pour ne pas être vus par les gens de l'hôtel. » Partez le premier, nous rejoindrons là, au tournant. C'est ce qu'il fait. Ils se promènent l'un côté de l'autre et se demandent comment il a fait pour lui parler tout à l'heure. Maintenant, il est tout ému. Et lui dit, j'aime ce calme. Cela repose les passions de la vie. Après leur promenade, elle lui dit « Au revoir et merci Jérôme, je m'appelle Charlotte Buissière. » Elle lui sourit et lui dit « Je sais que je peux compter sur vous. » Elle s'éloigne. Jérôme est fou de joie et en même temps il se sent angoissé. Il a peur de ne plus la revoir. Le lendemain, il a reçu une lettre d'Élise qui lui dit qu'ils sont bien arrivés. Mais il est loin, très loin d'Élise. Dans l'après-midi, elle lui demande de l'accompagner pour faire quelques courses en ville. Faut acheter quelques souvenirs. Ils font les magasins, ils portent le paquet. Elle a acheté des choses sans importance. C'est pour mes neveux et nièces. Pour le remercier, elle l'invite dans un salon de thé. Tout en mangeant des pâtisseries, elle lui dit « J'ai trois nièces et un neveu. qui vous ressemble un peu. Jérôme rougit. Il me prend pour un enfant ou un jeune adolescent. Je fais trop jeune. Puis, l'a raccompagné jusqu'à l'hôtel. Un groom l'a aidé à porter ses paquets. « Merci, monsieur. » Elle s'est éloignée. Les jours passent, ils se voient souvent, font des promenades, vont au concert. Jérôme est heureux et en même temps triste, car il a l'impression qu'elle le prend pour un petit frère. Quelquefois, elle rit comme une enfant, en voyant des objets dans les vitrines, ou, d'autres fois, elle semble triste, mélancolique, comme si elle avait une grande peine ou une maladie cachée. Mais, quelle que soit son humeur, elle reste toujours aussi élégante et noble. Jérôme s'aperçoit que les rares moments où elle est gaie, c'est lorsqu'elle est seule avec lui. Et, quelquefois, dans leur promenade, elle semble parler pour elle-même comme s'il n'était pas là. Je devrais partir bientôt, ou peut-être dois-je rester. Mon Dieu, que la vie est difficile. Il lui demande, vous êtes malade? Hein? Quoi? Je vous demande si vous êtes malade. Elle sourit. Non? Pourquoi? Jérôme, mort d'amour pour elle, mais d'un amour, où la passion des corps n'existe pas. Il aime comme une lumière, il ne vit que pour elle. Près de sa présence, il ne pense qu'à elle, il la rêve, l'idéalise, en fait une fée, une déesse. Les jours passent. Malgré les heures qui passent ensemble, elle reste, pour lui, mystérieuse. Elle ne lui a fait aucune confidence et ne lui en demande pas. Il ne connaît d'elle que son nom et sa beauté. Cela lui suffit. Et lui ne se confie pas non plus. Trop timide. Elle ne lui pose pas de questions. Aux yeux de Jérôme, cela la rend encore plus excitante de ne rien savoir d'elle. Les jours passent. Jérôme se dit qu'il va falloir bientôt partir. Un matin sur la terrasse, en lisant le journal, elle semble troublée, rougie, ses paupières s'agitent. Elle le pousse sur la table, se lève et hésite, ne semble pas savoir où aller. Jérôme lui demande. Vous n'allez pas bien? Un peu lasse, je vais dans ma chambre. Et elle rentre à l'hôtel. Pour le déjeuner, elle n'est pas parue à la salle à manger. Jérôme est inquiet, mais n'ose pas demander. Il décide de ne pas s'éloigner de l'hôtel. En fin d'après-midi, il la voit qui descend les escaliers et va vers lui, qui est assis dans l'entrée. Elle lui dit « Je vais vous parler, Jérôme. » Il la suit. Ils se sont assis sur un banc près du lac. Elle lui dit, j'ai un service à vous demander. J'ai un petit voyage à faire. Pouvez-vous m'accompagner? J'ai peur de voyager seul. Jérôme est surpris et heureux. Oui, bien sûr. Où devons-nous aller? À Lyon? Bon. Elle lui dit, partirons demain matin. Il ne faut pas que l'on sache que nous partons ensemble. Vous quitterez l'hôtel à 9h et m'attendrez à l'auberge du Grand Cerf. Là, nous avons été pour manger à la ville. Je vous rejoindrai et de là prendrons la diligence pour Lyon. Cela vous va? Oui, mais elle lui dit, je vous en prie, ne me posez pas de questions. Je peux compter que sur vous. Je suis seul au monde. Aidez-moi sans me poser des questions. Je veux bien. Elle se lève. Rentrons à l'hôtel et prévenons lors de notre départ. Jérôme a prévenu l'hôtel qu'il partait demain à 9h. Quelque chose lui dit que c'est une expédition folle. Il part avec une femme inconnue pour un voyage dont il ne connaît pas le but. Mais il est pris d'amour pour elle et sa demande le rend heureux. Il se dit, elle n'a que moi. Cette belle femme n'a que moi et je suis peut-être son salut. Le soir, il prépare sa valise. Compte son argent. Il ne lui reste pas une grosse somme. Mais Lyon, ce n'est pas loin. Le lendemain matin, il se lève à 8h. Fait sa toilette et prend son petit déjeuner dans sa chambre. Avec sa note à l'hôtel, puis va attendre Charlotte à l'auberge. Arrivé à l'auberge, il commande une bière et attend. Elle arrive avec un petit sac de voyage, porte une robe de voyage pomme et un chapeau à voilettes du même ton. Elle s'assoit à ses côtés. Elle lui dit, merci d'être venu, mes bagages partiront plus tard. Les miens aussi. Elle lui dit, la diligence part dans un quart d'heure. Il lui demande, vous voulez boire? Oui, je veux bien. Ils sont partis, assis l'un face de l'autre. Il fait très chaud, ils ne se parlent pas. Elle semble calme, mais les mouvements de ses paupières montrent qu'elle est nerveuse. Lui la regarde sans rien dire. Arrivé à Lyon, la chaleur est encore plus étouffante. Descente de diligence, elle lui dit « Nous allons aller au Grand Hôtel, place Bécourt. Vous connaissez Lyon ?» Il lui dit « Un peu, oui. » Elle lui dit « Il y a de très jolies églises à voir. » Et il la suit. Elle semble de plus en plus nerveuse.
Merci, elle n'avait pas dit de le baïonner.
Ah, c'est de sa faute. Il n'arrêtait pas de poser des coups.
Arrivée à l'hôtel, elle a demandé deux chambres. L'hôtel est luxueux. Jérôme tremble pour sa bourse. Ils ont deux chambres au même étage. Ils sont séparés, chacun à leur chambre. Puis, elle a frappé à sa porte. Venez, allons manger. En se trouvant dans le hall d'hôtel, elle court vers le maître d'hôtel pour lui parler à voix basse. Il regarde sur son registre et lui dit non. Puis, elle retourne vers Jérôme. Puis, ils sont allés manger rue des Peupliers dans un restaurant. En mangeant, elle lui demande « Est-ce que vous aimez l'opéra, Jérôme ?»« Oui, un peu, mais j'aime surtout ces Verdi. » « Moi, j'adore l'opéra. Demain, nous irons à l'opéra. Et avant, je dois faire les hôtels. Il faut que je retrouve une personne. Il le faut absolument. » Après avoir dîné, ils sont allés se coucher. Jérôme est inquiet pour sa bourse aussi. Et aussi, il se demande ce qu'il fait à Lyon. Le lendemain matin, ils ont pris un fiacre et font tous les hôtels de luxe de Lyon. Elle entre à l'hôtel et demande au personnel. Jérôme reste dans le fiacre. Elle semble de plus en plus nerveuse et excitée. Elle a des difficultés à cacher son anxiété. Jérôme se tait. Il la trouve belle dans son excitation. La journée du lendemain se passe de la même façon. Après le dîner, elle lui dit « Vous préparez pour l'opéra. Je viendrai vous chercher à 8h30. » qu'elle frappe à sa porte. Jérôme est prêt et lui ouvre. Elle est en robe de soie blanche et bleue. Il la trouve très belle. Le visage empourpré, les yeux fiévreux. Ils ont pris un fiacre pour le Rupiera et se sont arrêtés juste devant. Devant le guichet, elle pâlit. Un jeune homme va vers elle. Il lui ressemble. Les mêmes traits, la même taille, les mêmes cheveux. Charlotte, Henri, je savais que j'allais te retrouver ici, dit-il. Je suis venu te chercher, Charlotte. Non, Henri, venez, Jérôme, nous rentrons. Il lui dit, non, n'y va pas. Elle prend Jérôme par le bras et se dirige vers le guichet de l'opéra. Henri les suit derrière, comme tu voudras, et je suis venu pour te ramener. Il prend lui aussi un billet et ils entrent. Ils sont entrés dans la salle, ils s'assoivent dans une jolie loge. Jérôme est assis entre deux. Henri regarde Charlotte en colère. Il se sent gêné, Jérôme, mais que faire? Henri dit à Charlotte, « Je ne te quitterai pas. » Elle lui dit, « Laisse-moi. » La lumière s'éteint. Le rideau va se lever. C'est la Traviata. Pendant la représentation, Jérôme voit Charlotte comme transfigurée par le spectacle. Elle semble prise par la musique, les chanteurs. Plus rien n'existe pour elle. Jérôme, instinctivement, sent l'homme. Il est agacé, énervé. Puis, pendant un instant, Jérôme est pris par la musique et oublie où il est. Lorsque les lumières s'allument pour l'entracte, Charlotte n'est plus à leur côté. Seul reste son éventail sur la chaise. Henri crie, « Où est-elle ?»« Je ne sais pas. » Henri se lève. « Allons la chercher. Elle est folle, complètement folle. » Et il quitte la loge. Jérôme le suit, sans savoir où il va. Ils suivent un dédale de couloirs mal éclairés. Arrivé à un endroit, un homme leur bat le passage. « Vous désirez ? Nous cherchons la loge de Monsieur Dunel. »« C'est pour quel sujet ?»« Important et urgent. » Henri sort de sa poche un billet. « Couloir 4. » À droite, cinquième porte. Ils prennent le couloir à droite. Là, il y a du monde. des figurants des comédiens en costume. Et au milieu, ils voient Charlotte. Henri crie « Charlotte !» Elle se retourne. Une fois arrivée vers elle, qui est toute blanche, Henri lui crie « Tu l'auras voulu !» Et il ouvre une porte. Un homme assis à une table devant une glace se démaquille. Surpris de les voir, il dit « Que se passe-t-il » Henri prend Charlotte par le bras et lui dit « Regarde, regarde bien !»« Continuez, monsieur !» L'homme surpris dit « De toute façon, je n'ai pas le temps. Je me démaquille, je remaquille, avant de rentrer en scène. » Il se démaquille et au fur et à mesure qu'il le fait, apparaît le visage d'un vieil homme ridé et laid. Henri la tient par le bras et lui dit « Regarde, regarde bien !» Et se débat, pleure « Non, non, non !» Il lui crie « Tu veux la vérité ?» Le comédien ne comprend pas ce qu'il dit « Lâchez cette pauvre femme !» Henri desserre le bras, Charlotte se dégage et se sauve en pleurs. Henri apeuré, elle est partie, il faut la rattraper le plus vite possible. C'est une question de vie ou de mort. Jérôme est apeuré, il a peur. Ils sortent de la loge. Jérôme le suit. Voyez Charlotte au bout du couloir. Henri lui crie, Charlotte! Il court. La voit sortir du théâtre. Dehors, il la voit qui se dirige vers les quais du Rhône. Jérôme suit Henri. Arrivé vers les quais, il la voit descendre les escaliers qui mènent au Rhône. Henri descend les escaliers. Henri crie. Non ! Ils arrivent essoufflés. Elle est tombée. Jérôme tombe à l'eau lui aussi pour la rechercher. Il la rattrape, la remonte, mais se débat tellement qu'il perd le souffle. Henri est allé chercher du secours car il ne sait pas nager. Malheureusement, les secours arrivent trop tard. Ils ne peuvent repêcher que Jérôme. Épuisé, essoufflé, elle voulait tellement la mort que s'est débattue comme une forcenée. Quinze jours plus tard, Jérôme est chez Henri. Ils sont assis dans des fauteuils au salon. Henri habite Paris. Il dit à Jérôme. Ma sœur était folle d'amour. C'était une jeune fille sage sans histoire. Un jour, on l'emmène à l'opéra. 6 mois après la mort de nos parents, nous venions d'hériter et nous vivions tous deux ici, là, sur la scène. Et s'est prise d'un amour fou pour un chanteur. Il jouait le rôle de Roméo. Elle s'est mise à lui écrire. Ses lettres n'ont pas eu de réponse. Elle voulait à tout prix avoir une réponse. Elle allait à toutes les représentations. Je me suis rendu compte très vite de sa passion. J'avais beau lui dire qu'elle était amoureuse d'une illusion, d'un rêve, rien n'y faisait. Alors, pour son bien, comme je m'apercevais que ça prenait des proportions trop grandes, je lui interdisais d'aller à ses représentations et de lui écrire. elle faisait fi de mes interdictions. Et à certains concerts, elle allait jusque dans les coulisses pour le voir ou l'attendre à la sortie. Mais les régisseurs l'en empêchaient et à la sortie, elle ne le reconnaissait pas. Un jour, j'en ai eu assez. Je l'ai enfermée dans sa chambre. Malheureusement, grâce à la complicité d'un domestique, elle s'est enfuie. Je l'ai recherchée pendant 10 mois, en sortie de chacun de ses représentations, jusqu'à ce que je vous ai vu avec elle. Jérôme de Romande. Et que faisait-elle au lac Léman? Elle attendait que les journaux donnent le lieu de ses représentations. Pourtant, elle ne semblait pas calme lorsque je l'ai rencontrée. Elle était douce et calme en dehors de sa folie. Les personnes qui semblent douces et calmes cachent les passions les plus folles. Le dessus de la mer peut être calme et lisse, et en dedans se joue une lutte. Horrible entre les passions. Voilà mon pauvre Jérôme. Restons amis, je vous en prie. Ma sœur vous a aimé et avait confiance en vous. Elle avait raison. Radio Canus a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Folie douce, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.